Attention, l'émission qui va suivre est une émission spéciale. Avec...
Il était spécial.
Peggy 18.
Oui, bienvenue tout le monde, nous sommes nous.
L'heure fantastique.
Terrien, terrienne.
Showtime.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Showtime.
Bienvenue dans... Crost.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Crost, ce crossover donc qui réunit trois émissions de Radio Saint-Afrique. Émissions qui sont les suivantes, L'Heure Fantastique avec Lucille Peyre.
Bonjour.
Bonjour. Showtime avec Vince.
Salut.
Et l'unité spéciale avec moi. Bonjour. Et avec Crystal.
Salut.
Et avec le cornichon des printemps.
Bonjour.
Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler. On a un thème bien spécial pour ce deuxième épisode de Crost, qui est la mythologie.
Ouais.
Donc voilà, on va vous parler de films, de jeux vidéo et de films et de jeux vidéo.
Et de livres.
Voilà, exact.
Et de groupes.
Et voilà, n'oublions pas.
Et de jeux à la fin aussi.
Oui. Et on va donc du coup tout de suite commencer avec la rubrique littéraire sur Neil Gaiman avec Lucille.
Voilà, donc je voudrais commencer ma rubrique en disant l'importance de la mythologie pour moi. Dès toute petite, la mythologie grecque d'abord, puis celtique, mésopotamienne ou égyptienne, ont revêtu un grand intérêt à mes yeux. J'étais abonnée à un magazine, Archéo Junior, je ne sais pas si ça existe encore, et je dévorais tous les bouquins qui traitaient de ce sujet. On pourrait croire qu'il s'agit de quelque chose de poussiéreux, d'ennuyeux. Mais quand on regarde de plus près le mythe d'Œdipe, les aventures extra-conjugales de Zeus ou les légendes sur Odin, on comprend que plus de 5000 ans avant Game of Thrones, il y avait déjà pas mal de sexe et de violence dans les histoires. Un truc comme la conception à la naissance d'Athéna, par exemple, n'a rien à envier aux noces pourpres. Tout ça pour dire que la mythologie a déjà tout ce qu'il faut pour être palpitante et susciter de l'intérêt. Pas besoin d'en rajouter ou de la modifier, ce qui donne toujours quelque chose d'à la fois médiocre et affligeant, comme on le verra tout à l'heure dans la rubrique du film De Pucelle. Vous l'aurez compris, en matière de mythologie, je suis une puriste et je ne tolère que très moyennement les transformations apportées aux histoires. Passer après Homère et réécrire la guerre de Troie est une entreprise osée. Certes, on l'a réussi, et quand la personne qui s'y colle connaît et respecte la légende, tout en y apportant son style, en l'actualisant sans la dénaturer, en la réinventant sans la trahir, ça donne des choses tout simplement énormes. Sinon, c'est juste tout pourri. Celui dont je veux vous parler aujourd'hui connaît la mythologie, ou plutôt les mythologies, nordiques et égyptiennes notamment, et il a le talent nécessaire pour se les approprier, tout en y mêlant l'humour anglais et l'univers américain. Celui dont je veux vous parler aujourd'hui est un génie, je n'ai pas peur des mots, un touche-à-tout capable de naviguer de la BD à la télé, en passant par la nouvelle et le roman, de s'adresser à des adultes comme à des enfants, de passer du gothique au comique, de réinventer les classiques et de relever les paris les plus audacieux, comme celui de réunir les univers de Lovecraft et de Conan Doyle dans une nouvelle et de réussir à créer des œuvres extraordinaires à chaque fois. Celui dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Neil Gaiman, un écrivain anglais contemporain qui est entre autres l'auteur de American God. Et avant de passer à une petite présentation de ce fantastique roman, on s'écoute un morceau à son image, celle d'un grand classique revisité, La chevauchée des Valkyries de Wagner, reprise à la guitare électrique. Un merci à Fred en passant, qui a fait tout le boulot à ma place, en trouvant pour moi ce morceau sur le net. We'll be right back. Je ne sais pas si Wagner apprécierait, mais je suis presque sûre que si les guitares électriques avaient existé à son époque, il les aurait intégrées à sa composition. De la même façon, si Odin, Thor et Loki devaient faire un tour aux États-Unis, il y a fort à parier qu'ils s'arrêteraient au fast-food pour la pause déjeuner. Dans son roman, paru en 2001, American God, Neil Gaiman raconte l'histoire de Ombre. Libéré après plusieurs années passées en prison, ce dernier apprend que sa femme et son meilleur ami sont morts ensemble. Le fait que sa chère étende le trompait avec son meilleur pote atténue peut-être un peu son chagrin, mais ne l'aide pas vraiment. Ombre est carrément perdue. Personne ne l'attend, il n'a pas d'argent et pas tellement le moral non plus. C'est dans cet état qu'il rencontre Voyageur. En anglais, ce personnage énigmatique se nomme Mr. Wednesday. Ombre l'a en effet rencontré un mercredi, jour de Wotan ou Odin en anglais. Le lecteur va vite découvrir que Voyageur est le dieu nordique Odin. Ce dernier entraîne Ombre, qu'il a embauché comme garde du corps, dans un voyage aux airs de Rodmovi, à travers les États-Unis, à la recherche de tous les dieux anciens. Odin veut rallier à sa cause ses figures de la mythologie nordique, celtique ou égyptienne, contre ces nouvelles créatures, internet, télévision et hamburgers, que l'Amérique a érigées au rang de divinité. Inutile de dire que les références à la mythologie sont nombreuses, riches et toujours bien renseignées. Et il est surprenant, original et carrément passionnant de les découvrir sur fond de géographie américaine. Le contexte est inattendu et très réussi. Neil Gaiman parvient à mêler une réflexion philosophique sur l'identité, notamment à travers le personnage d'Ombre, en quête de lui-même et de ses origines, une réflexion sociologique sur l'Amérique d'aujourd'hui, des références cinématographiques et télévisuelles, et un style assez underground, rendu notamment par un niveau de langue assez familier, voire carrément vulgaire par moments. Le tout dans un style fantastique rock, comme Gaiman le décrit lui-même. Et c'est franchement super. Je ne vous dirai pas évidemment qui des anciens ou des nouveaux dieux gagnera la guerre, ni ce qu'Ombre découvrira au cours de son voyage. J'espère que vous irez voir ça par vous-même en lisant American God. Et si la lecture n'est pas votre truc, vous pourrez toujours attendre un peu que sorte la série adaptée du roman. À l'origine, c'est HBO qui devait s'emparer du projet, mais les retards ayant été nombreux, notamment à cause de soucis d'adaptation du texte original, c'est finalement la chaîne Starz qui diffusera la série produite par Brian Fuller et Michael Green, qui ont travaillé sur Heroes. Le pilote a déjà été tourné et Neil Gaiman veille au grain côté scénario et production, ce qui est, on le sait bien, Game of Thrones en est un excellent exemple, une garantie que la série ne trahisse pas le roman et soit à la hauteur des espérances des fans. Pour clore cette rubrique, je vous propose un petit extrait de l'opéra de Jean-Philippe Rameau, Hippolyte et Aricy.
Bienvenue tout le monde, nous sommes de retour à Crossed numéro 2. Là. Si vous voulez entendre le premier, vous pouvez aller sur radiosouthafrique.com, le site. On est arrivé, je crois, à 3000 vues. Là. C'est... Merci beaucoup
tout
le monde.
Ah oui, alors là, c'était le record.
Le record absolu.
Avéronial.
Ouais, on peut dire ça. Donc voilà, si vous aimez bien, peut-être qu'on fera des crossovers, je sais pas, peut-être tous les deux mois, peut-être, si on a de l'inspiration.
Oui, tous les deux mois.
En tout cas, nous, on reviendra probablement à la rentrée, comme vos émissions, je présume.
Moi je sais pas trop, moi je suis pour
encore
une saison 2 mais il faut...
La Fantastique reviendra pour une saison 3 en octobre sur le thème de l'Heroic Fantasy avec Tolkien et Game of Thrones au programme.
Oh ah, d'accord,
oh,
bon. Et donc lui spécial reviendra probablement vers septembre-octobre, je sais pas si
ouais,
on revient.
Ouais septembre-octobre, t'as signé 2-3 contrats avec Spinning Records.
Voilà. En tout cas j'espère que vous passez des bonnes vacances, ça passe pas trop vite encore, il reste encore un bon mois. Voilà.
De quoi lire American Gods,
par exemple.
Ou Sandman de Neil Gaiman aussi.
De quoi ne pas regarder Percy Jackson 2, par
exemple. C'est justement l'objet de ta chronique. Mais quelle transition! Allez, on se l'écoute tout de suite.
Salut à tous, c'est Sage pour une nouvelle critique ciné, et comme aujourd'hui le thème principal de cette émission est la mythologie, je suis complètement largué. C'est pas ce qui manque les films de mythologie, mais j'ai dû chercher pas mal pour en trouver un sur lequel je vais pouvoir déverser toute ma rage. Oui, je préfère critiquer en mal que vous conseiller un film. Donc j'aurais pu vous parler d'Immortels, de Jason et les Argonautes, du Choc des Titans. Non, en fait c'est Lucille qui va se charger du Choc des Titans. Mais non, parce qu'aujourd'hui on va parler... de... Suis-je obligé de le dire ? La critique ciné de Crost. Ok, alors comme aujourd'hui j'ai envie de vous parler du 2 parce que je viens de le voir et que j'avais la flemme de regarder le premier, je vais vous faire un bref résumé de ce premier opus. Percy Jackson, 2. Le voleur de foudre en français, est sorti le 10 février 2010. Il est réalisé par Chris Columbus et les acteurs sont les suivants. Logan Lerman en tant que Percy Jackson, Brandon T. Jackson dans le rôle de Groover, Pierce Brosnan dans le rôle de Chiron et Sean Bean dans le rôle de Poséidon. L'histoire est la suivante. Percy Jackson découvre qu'il est le descendant d'un dieu grec et s'embarque avec l'aide d'un satyre et de la fille d'Athéna dans une dangereuse aventure pour résoudre une guerre entre dieux. Ce film est très moyen. Les effets spéciaux sont parfois efficaces, parfois la ramasse. L'acteur qui joue Percy est absolument tout sauf crédible. Le scénario est nul, il n'y a aucun enjeu, les personnages se prennent trop au sérieux, il y a des clichés partout. Je vais mourir, aidez-moi. Voilà, donc ça c'est pour Percy Jackson 1. Allez, faites pas cette tête. Qui sait, peut-être que le deuxième film est bien. Non. Bref, ce deuxième film nous montre que Percy est triste car il pense que ce n'est pas un héros. Après tout, c'est normal, certains ados se suicident parce qu'ils se trouvent moches et lui, il veut se suicider parce qu'il vient de sauver le monde et qu'il croit que c'était qu'un coup de chance. Bref, il découvre que son demi-frère est un cyclope, donc il déprime encore plus. Mais il ne va pas avoir le temps de se scarifier parce que c'est trop dark, car la barrière de protection divine qui protège le camp des sans-mêlés est attaquée par un taureau en cuivre, qui apparemment ne serait pas lié à quelconque légende mythologique, mais en tout cas, il a un super design, alors ça passe. Pour sauver leur seul refuge, Percy, Groove, Annabeth et son frère le Cyclope doivent se lancer à la recherche de la légendaire Toison d'Or. Bref, ils vont devoir se rendre dans la mer des monstres, qui est en fait le triangle des Bermudes, pour voler la toison à... Suivez pas, hein. 3 heures de colle collective pour voler la toison d'or à Polyphème, car elle peut guérir n'importe qui et n'importe quoi, comme par exemple leur champ de force. Bref, voilà la seule référence mythologique du film. Le reste, c'est du Men in Black, du très mauvais Men in Black. Et c'est un peu dommage quand même, parce que je l'ai préféré au premier, et le seul problème, c'est que le premier film parlait presque que de mythologie, et les références, certes parfois forcées, étaient quand même pas mal amenées, mais sur le deuxième film, il n'y a presque rien d'important dans le scénario qui a un rapport avec la mythologie. Par contre, et là je m'y attendais pas, il y a un message contre le racisme dans le film. Et le mieux, c'est qu'il est assez bien apporté. Je vous explique. Annabeth, l'amie de Percy, refuse que son frère, le Cyclope, vienne avec eux parce que les Cyclopes l'ont traumatisé durant son enfance et, à la fin du film, elle apprend à l'apprécier. Honnêtement, c'est assez inattendu et bien apporté, alors why not? Sinon, le reste du film est tellement mou et chiant que je me suis profondément emmerdé pendant ces 2 heures. Par exemple, voici un passage qui m'a fait hurler dans le film. À un moment, Luke, le méchant du film, qui veut aussi la toison pour réveiller un gros méchant parce que, comme ça, il lui donnera la vie éternelle, veut tuer Percy avec son arbalète. Cette scène est molle. Il vise Percy, et Percy, bien sûr, ne bouge pas d'un poil alors qu'il pourrait se casser. Et, d'un geste héroïque et émouvant, son frère le Cyclope saute devant son frérot et reçoit la flèche à la place de Percy. On a ensuite droit à un monologue émouvant de 3h50 avant que le Cyclope tombe dans l'eau et meure. Déjà, Luke aurait normalement déjà pu recharger ton arbalète et tuer Percy ainsi qu'une vingtaine de personnes autour, mais non, il est gentil après tout. Mais ça encore, c'est pas grave. Ce qui me désole, c'est qu'ensuite, et vous en doutez très bien, lors du combat final, Percy se retrouve dans une sale posture et à la seconde où 1,5% des spectateurs pensent qu'il va mourir, son frère le Cyclope tue le méchant alors qu'il s'est fait tuer il y a 2 minutes.
Je vous maudis. Aucun personnage dans ce film ne meurt. C'est incroyable, tout le monde reste vivant. Tout le monde, même les méchants. Là où ça aurait pu être émouvant, c'est qu'un personnage comme Groove meurt parce qu'on a pu s'y attacher à lui pendant le premier film, parce qu'il est drôle, parce qu'il n'est pas, contrairement à tous les autres personnages du film, fade et aussi mou qu'une mamelle de chameau. Et là, au lieu de ça, ils nous servent des clichés à la pelle pour nous faire encore plus détester le film. Bref, en résumé, même si les deux films sont bien médiocres, la mythologie, si vous la recherchez, est plus présente dans le premier opus, que je vous conseille donc plus. C'est sur ces moches paroles que je vous laisse, et n'oubliez pas de cultiver des cookies. À la prochaine, salut tout le monde.
Non, non.
Voilà, c'était la chronique de Salut Standard sur Percy Jackson 2. T'as voilà. Préféré le deuxième, en fait, alors.
Oui, de peu.
Vous l'avez vu, non?
J'ai pas osé m'infliger ça.
Non plus. Là, il m'a vendu le film.
Ah ouais.
Ah, moi, j'avais vu le 1, il était vraiment pas terrible.
Ça donne envie.
Je sais pas s'ils vont faire un 3 ou pas, mais bon.
Seulement 3,99€ à la boutique.
Cornichon, tu l'as vu, toi?
Non.
Je l'ai vu, moi, je voulais le voir pour Nathan Fillon.
Nathan Fillon. Eh ben, tout de suite, c'est la chronique, justement, de Vince. Tu veux nous parler de quoi?
De folklore.
Eh ben c'est parti.
Un bon petit jeu sorti en 2007.
Ok.
Pour ce crust spécial mythologie, que de mieux que de vous parler un peu de folklore. Le folklore, en voici la définition basique. Le folklore, de l'anglais folk, peuple et lore, science, savoir, est l'ensemble des manifestations culturelles émanant d'un peuple et se transmettant d'une génération à l'autre par voie orale. En gros, ça englobe les contes, les récits, les chants, les musiques, les danses, croyances, fêtes, rites et savoir-faire. Je vais m'arrêter sur les contes et croyances. Des termes qui ont trait à l'imaginaire, dans un certain sens. Quand on parle de contes de croyances, à quoi pense-t-on? Aux contes de fées qui ont bercé notre enfance? Aux religions? Aux dieux? Moi, je pense à l'Irlande, à ses paysages enchanteurs, et surtout à son folklore. Fae, Banshee, Samhain, etc. me viennent à l'esprit. Cet amour de l'Irlande, de ses coutumes, légendes et traditions me vient. D'un voyage scolaire en Irlande, de films, d'un livre et d'un jeu vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ce jeu. Son nom, Folklore, tout simplement. Enfin, par chez nous, il est sorti sous le titre de Folklore. Au Japon, son pays d'origine, il est connu sous le titre de Folksoul. Le jeu, exclusif à, pour pas citer de marque ou quoi que ce soit, à la station de jeu 3, développée par Game Republic, nous est arrivé le 10 octobre 2007. Pour ce qui est de l'histoire du jeu, je vais laisser Hélène, l'une des deux protagonistes du titre, vous la présenter.
J'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune. La dernière chose dont je me souvienne, c'est quand elle me racontait des histoires sur les fairies, sur un village mystérieux. Le village de Doolin, où les vivants pouvaient rencontrer les morts. Et maintenant, elle me dit qu'elle est vivante! Mère, pourquoi avoir attendu aussi longtemps?
Je vous l'ai dit, je n'irai pas plus loin.
Je vous en prie, rapprochez-nous un peu du rivage.
Aucune chance. On ne réussira jamais à revenir. J'ai une famille, mademoiselle. Alors laissez-moi en dehors de tout ça.
Je vois ma mère.
C'est pour votre bien.
Merci. J'apprécie vraiment. Dans ce cas, j'irai toute seule.
Mademoiselle, vous allez périr! Non!
Un sombre nuage au-dessus de ma tête, avec la mort de ma mère et le sentiment de solitude qui en a résulté.
Et nous voici arrivés à Doolin, village isolé de l'Irlande. Avec une présentation comme ça, on pourrait presque croire que l'on a affaire à un Silent Hill 2-like. Village isolé, presque abandonné, un lourd passé empli de tragédies, la lettre d'un proche disparu qui serait pas si disparu que ça. Comment ne pas penser au début des aventures de James Sunderland ? Seulement, la comparaison s'arrête là. Pour continuer de bien vous présenter l'histoire du jeu, permettez-moi d'introduire Keats, le second héros de Folklore.
Même dans les temps modernes, de nombreux phénomènes restent inexpliqués. Des rencontres spirituelles sont signalées en permanence aux quatre coins du globe. Simultanément, les sciences modernes progressent en permanence. Nous n'aurons peut-être pas longtemps à attendre avant que les frontières entre la vie et la mort, la destinée des hommes, soient expliquées par les sciences modernes. Vous trouvez peut-être étrange que ce soit moi qui dise ça. Moi qui travaille pour un magazine ésotérique. Encore un petit malin. Rédaction du magazine Royaumes Inconnus.
Aidez-moi. Aidez-moi. Les Fairies, ils vont...
Quoi? Parlez plus fort.
Ils vont me tuer.
Hein?
Le village. Doolin. Sur la falaise de Cid. Aidez-moi.
Attendez. Allô? Hé, allô? Ce genre de blague tout le temps. Mais j'ai l'impression que cette fois, c'est différent. Et c'est pour cette raison que je suis parti pour le village de Doolin, le royaume des morts.
Comme ses sons le laissent entendre, Hélène et Keats vont être amenés à se rencontrer. Et oui, dans Folklore, c'est deux histoires qui s'offrent à nous. Celle de Hélène et de Keats. Comprenez par là qu'ils sont tous deux jouables. Tout du long de leur périple, les deux héros seront amenés à se rencontrer.
Mère, c'est vous? J'avais tellement envie de vous voir. C'était très dur sans vous. J'étais si jeune. Mais cela n'a plus d'importance. Vous ne répondez pas.
Excusez-moi.
Quoi?
C'est vous qui m'avez téléphoné?
Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que je...
Peut-être pas, en fait. Et la dame là-bas?
Et c'est peu dire, car l'aventure qui s'offre à nous se déroule en plein Samhain. Le Samhain, dans la mythologie celtique irlandaise, est une fête religieuse qui marque le début de la saison sombre. Dans cette mythologie celtique, il y a deux saisons, une claire et une sombre. Donc, le Samhain augure rien de bon. Les portes du Netherworld, l'autre monde, sont grandes ouvertes. Esprits et compagnie sont sortis. Et ce jour est aussi propice à toutes sortes d'événements magiques, mystiques. Pour vous donner un ordre d'idée, le Samhain correspond à peu près à notre Halloween. Comparaison d'autant plus flagrante que le Samhain se déroule le 1er novembre. Je pense pas avoir besoin de vous faire un dessin. Nos deux héros vont devoir affronter un monde surnaturel qu'ils ne soupçonnaient même pas. Le joueur explore autant le village de Dulin que le Netherworld. Les phases à Dulin sont classiques d'un RPG. Exploration, enquête auprès de PNJ, quêtes secondaires sont de mise. Le Netherworld, lui, est plus fantastique. C'est quelque part le cœur de l'action du jeu. Là, Hélène et Kitz doivent faire face aux Folks, des créatures imaginaires aussi mignonnes que redoutables qui semblent sortir tout droit d'un film de Tim Burton. Le joueur devra les capturer afin d'utiliser leur habileté pour pouvoir se défendre. Un système de jeu qui fait quelque peu penser à Pokémon, sauf qu'ici, pas de Pokéball pour attraper les Folks. Pour capturer les Fairies, le joueur doit absorber l'âme des créatures. Pour cela, il faut utiliser le système de reconnaissance de mouvement très peu utilisé de la manette de la troisième station de jeu. On se retrouve donc à secouer notre manette dans tous les sens. Il y a bien d'autres éléments de gameplay que je pourrais développer. Les costumes que débloque Hélène au fil de son avancée au travers des royaumes du Netherworld. La capacité de Kitz à se transformer. Le système de combat bien pensé, etc. Seulement ça en ferait beaucoup à dire et je ne vais pas m'attarder. Surtout qu'il me reste encore quelques points à aborder. Comme la patte graphique de Folklore, en un mot, c'est beau. Et surtout coloré, en particulier le Netherworld. L'autre monde de la mythologie celtique est de toute beauté. C'est des paysages enchanteurs, pleins de poésie que l'on traverse. Bon, à côté, Dulin est un peu triste, plus gris, mais ça passe quand même. Le jeu datant de 2007, il faut quand même se faire une raison. Il a bien vieilli. Pas trop en mal. Encore aujourd'hui, je pense que certains jeux n'arrivent pas à la hauteur de Folklore. Là où ça a pris un bon coup de vieux, c'est au niveau des cinématiques en CGI. Elles sont belles, mais les personnages ont un effet un peu plastique. Dommage. Heureusement, la bande originale du jeu signée Kenji Kawai nous ferait presque oublier ces quelques petits détails. Vraiment, cette BO. Une de mes préférées. Elle aide le joueur à se propulser dans le monde enchanteur de Folklore. Et voilà, voilà. Je pense avoir fait une assez bonne présentation de Folklore. J'ai peut-être oublié 2-3 choses dans mon élan, mais je pense que l'essentiel est là. Vraiment, quand j'ai su que le thème de ce Crost allait être la mythologie, j'ai de suite pensé à Folklore. À la série Lost Girl aussi. Mais je tenais à vous présenter ce jeu coup de cœur qui est un peu passé inaperçu. Je parlerai de Lost Girl une prochaine fois. En tout cas, si vous aimez la magie, la poésie, la mythologie celtique, l'Irlande, les actions RPG, que dire de plus, Folklore est pour vous. J'espère qu'il vous marquera comme il a su me marquer. Allez, j'en dis pas plus, sinon je ne m'arrêterai pas. Je vous propose de vous laisser emporter, pourquoi pas charmer, par To the Underworld de Kenji Kawai, musique tirée de la bande originale de Folklore.
C'était Kenji Kawai avec To the Unknown World, tiré du jeu Folklore que Vince nous a présenté. Et justement, on va rester un petit peu dans le domaine des jeux avec Salut Standard, tu veux présenter un petit peu les listes de jeux en rapport avec la mythologie.
Oui, voilà, donc tant qu'on y est, vu que j'ai joué quand même à pas mal de jeux, n'est-ce pas ? Voici une petite liste de jeux ayant pour thème la mythologie auxquels j'ai joué et qui m'ont le plus marqué. Donc il y a Loki, un jeu de rôle orienté action sur PC, qui est sur...
Loki.
Bien joué. Ensuite, il y a Age of Mythology, un très bon jeu de stratégie réalisé par les créateurs d'Age of Empires sur PC.
Ouais. Ouais, voilà, c'est l'un des premiers jeux de PC que j'ai joué.
Ah oui, alors ça. La série de jeux Saint Seiya, voilà, les Chevaliers du Zodiac, jeux de combat, d'aventure et pour la bataille du Sanctuaire, Beat Them All sur NES, PS2 et PS3. Enfin, certains épisodes sont. Voilà. Oui. Girl of War, un Beat Them All sur PS2, PS3 et bientôt sur. Station de jeu numéro 4.
Voilà.
Et comme PSP. L'a souligné Vince, aussi. Voilà, PSP.
Pour Chain of Olympus et Ghost of Sparta.
Juste, qu'est-ce qu'un beat them all?
Alors,
c'est
en fait,
un truc bourrin.
Voilà, ouais, c'est, tu dois tuer tout le monde.
Défoncer tout le monde.
Littéralement, ça veut dire défoncer tout le monde. Voilà.
Voilà.
Et, ou encore, donc, le maître de l'Olympe, Zeus, un jeu de stratégie sur PC au nom improbable. Voilà. Donc, c'est vraiment les meilleurs jeux que j'ai.
Il n'y en a pas qui vont sortir des trucs en rapport avec ça, non?
Pas vraiment, non.
Non.
À part le God of War 4 qui
oui.
est mystérieux.
Évidemment.
On n'en sait rien.
Ouais.
Mais je vais me permettre de rajouter quelques jeux vis-à-vis en rapport au folklore japonais aussi. Ben, la saga des Fatal Frame ou Project Zero, où on doit capturer des photos avec un appareil photo pour pouvoir se défendre. Assez glauque, ça, de ce que j'ai cru entendre. Il y a le fameux Duon, la malédiction aussi.
Ah oui, oui.
Avec
Le The Grudge.
Voilà, en rapport au folklore japonais.
Il est que sur Wii, non?
Oui, que sur Wii.
Ballon-tige.
Après, vous pouvez tricher avec des Master PC.
Oui,
voilà, j'ai rien dit. Et voilà, à peu près, bon. Le folklore japonais, enfin, des jeux japonais, il y en a pas mal là-dessus. Forbidden Siren, etc.
Ah oui, ok. C'est tout?
Eh oui.
D'accord, eh ben, on enchaîne avec Lucille. Tu nous parlais d'un film que tu as moyennement aimé, c'est ça?
Voilà, en fait, je vais poursuivre avec la rubrique que les auditeurs de l'heure fantastique connaissent bien. C'est le film de Pucelle. Pour les autres, j'explique un petit peu. Le cinéma et la télévision regorgent d'œuvres formidables, particulièrement dans les domaines du fantastique et de la SF qui me sont très chers. Mais il existe aussi des grosses daubasses, des navets écrits avec les pieds, qu'on peut à la rigueur voir au second degré pour rigoler un coup ou pour se vider un peu le cerveau, mais qu'il ne faut surtout, surtout pas confondre avec les œuvres, les vrais, les cultes. La rubrique du film de Pucelle a justement pour but de faire la distinction entre les deux. De la même façon qu'on n'aurait pas idée de ranger l'autobiographie de Nabila dans le même rayon que les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, on évitera de considérer comme appartenant au même monde l'univers de Neil Gaiman et le Choc des Titans, qui remporte donc la palme du film de Pucelle, catégorie mythologie.
Du royaume des enfers, je les ai observés. Pour les mortels, c'est l'heure du châtiment.
Les dieux ont besoin de nous, besoin qu'on les vénère. En quoi avons-nous besoin d'eux ?
Non ! Je les ai créés et ils récompensent mon amour en me défiant. Il n'y aura aucune trêve. C'est la fin. Ce n'est que le début.
Percy, depuis fort longtemps, je te protège. J'ai toujours été là.
Aurais-je entendu ses prières ? Ce fils ne ressent aucun amour pour moi.
Rien ne t'oblige à lutter.
Quelqu'un se doit de résister. Si je le fais, j'agirai en tant qu'homme.
Tu es bien plus qu'un homme.
Le Choc des Titans est un péplum britannico-américain réalisé par Louis Leterrier en 2010. C'est un remake du film éponyme datant de 1981. Je sais que je ne vais pas forcément me faire des amis en critiquant un film qui a remporté un grand succès au box-office, mais tant pis. Ce film est carrément une insulte à la mythologie. Sans parler du manichéisme qui devient carrément une marque de fabrique pour le cinéma à gros budget américain, en mettant de côté les répliques cuculapraline et la construction des personnages hyper caricaturales,
Ce qui me fait le plus mal dans ce film, c'est que la mythologie grecque, qui est censée en être l'inspiration, y est non seulement négligée, trahie, mais même carrément piétinée. On se fait vite fait une petite liste des grossières erreurs de ce film, ou plutôt une sélection, tant elles sont nombreuses. Pour commencer, la mère de Persée, Danaé, n'est absolument pas la femme de Chrysos, le roi d'Argos, mais sa fille. Ce qui fait de Persée le petit-fils de Chrysios et non pas son bâtard, comme le film voudrait nous le faire croire. On continue avec le Kraken. Mais que vient foutre un monstre de la mythologie nordique dans l'univers de la mythologie grecque ? Ça revient un peu au même que si on avait fait intervenir le Père Noël dans la légende du roi Arthur. Et quand bien même on passerait sur la bourde du Kraken. Si un dieu grec devait envoyer un monstre marin, c'est Poséidon qui s'y collerait, le dieu des mers, pas Hadès, dieu des enfers, qui n'a rien demandé à personne, et se voit mêlé à une histoire dans laquelle il n'a absolument rien à faire. Dans le même genre d'idée, Io, qui est censé suivre la destinée de Persée, se voit intégré à une histoire qui n'est pas la sienne. Elle n'a absolument aucun lien avec Persée, puisqu'elle est en réalité la maîtresse de Zeus transformée en vache par ce dernier, pour lui éviter la colère de sa femme Héra. Ce que le film, évidemment, ne montre pas.
D'accord.
On termine avec Pégase, le cheval ailé. Selon la légende, il naît du sang de Méduse, répandu lorsque Persée la décapite. Donc, 1. Il n'y a qu'un seul et unique cheval ailé, et non un troupeau comme le film le présente. 2. Persée ne peut pas le rencontrer avant de tuer Méduse. Sinon, c'est carrément illogique. Et 3. De toutes les façons, dans la mythologie, c'est Bellérophon qui chevauchera Pégase et non Persée. Je n'ai rien contre quelques petites modifications à la mythologie, de manière à la rendre un peu plus rock, comme dans le film 300 par exemple. Mais il y a tout de même une limite que le choc des titans a allègrement dépassée. Il y a eu Récidive 2 ans plus tard avec la colère des titans qui se vautre avec entrain dans des clichés neuneux, les contresens et les absurdités. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas voir ces films, mais je trouve dommage de ne voir que ça. Allez, on se quitte sur le seul point positif, une BO pas trop moisie qui réserve même 2 bonnes surprises comme cette reprise de Sweet Dream dans une version qui n'est pas sans rappeler celle de Marilyn Manson.
Percé, j'en appelle à ton aide.
C'est pour les dieux, pas les hommes.
Tu apprendras un jour qu'être à moitié homme te rend plus fort qu'un dieu. Comme un humain. Ensuite, tu pleureras.
Pas tout à fait.
Merci Lucille pour ce film que je pense qu'on va pas le voir. Hein.
Oui, c'est mieux, c'est déjà fait.
Je sais pas si ils en font un troisième ou pas, comme Percy Jackson.
Bah déjà que.
Oh, s'ils en font un troisième.
J'étais surpris d'une colère des titans, donc.
Ouais. Ouais. Mais après, si ça marche au box-office, ils vont refaire des trucs, mais bon.
Ouais. Enfin, si les gens aiment les mauvais films, après tout, hein.
Donner le bâton pour se faire battre.
Et puis après. voilà.
Mais, que vois-je, c'est Cornichon qui va faire sa chronique maintenant.
Oui, oh. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Amon Amarth. C'est un groupe de death metal mélodique suédois fondé en 1992. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé de métal. Alors, il est composé de 5 vikings au nom imprononçable, à savoir Johan Egg au chant, Olavi Mikkonen à la guitare, Johan Soderberg à la guitare aussi, Ted Lundström à la basse et Fredrik Andersson à la batterie.
Ils sont allemands ?
Non, suédois. Alors, ils font partie du mouvement appelé Viking Metal en raison des thèmes abordés dans leurs chansons, à savoir la mythologie scandinave et la mythologie dans les livres d'Heroic Fantasy.
Et en raison de leur barbe.
aussi. Le nom Amon Amarth veut d'ailleurs dire « montagne du destin » en Sindarin, une langue inventée par Tolkien, écrivain du Seigneur des Anneaux. Comme leur contenu, les pochettes des albums font référence à des grandes scènes de la mythologie scandinave, notamment sur leur dernier album « Deceiver of the Gods », où l'on peut voir une représentation de Ragnarok, l'apocalypse de la mythologie nordique, où Loki affronte les dieux Aesir. Alors, la chanson qu'on va écouter, « Under the Northern Star », c'est ma préférée parce que la voix puissante de Johan Hegg est coupée à une mélodie douce et mélancolique, donnant au morceau un réel impact. Voilà, donc on l'écoute tout de suite.
Ok.
Voilà, c'était...
Under the Northern Star.
De
magnifique.
Amon Amarth.
Voilà. Écoutez, bien évidemment, le soir, quand on va s'endormir.
C'est plus soft. Hein. Il était gentil avec moi.
Ce que, comme Jean m'a dit, c'est qu'il a une belle voix, donc on va se calmer. Hein. Voilà. Eh, mais on peut pas se quitter avant de finir ce crossod, avant le Cross. Quiz. Oh. Mais ce n'est pas moi qui le fais cette fois-ci. Je vais être obligé de jouer. Voilà. C'est Lucille qui va le faire aujourd'hui.
Et voilà, c'est moi qui me suis chargée du quiz. Alors peut-être qu'avant de le commencer, on va parler un petit peu du gage.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais.
Alors, la plupart du temps, vous proposez des gages qui sont un peu visuels. Et donc, ouais. La plupart des auditeurs souffrir. Se ouais. plaignent de savoir si ça s'est vraiment passé ou si c'est pour de faux. Ouais, là, du coup, je vais vous proposer un gage auditif. Comme ça, personne ne pourra dire que c'est pour de faux. Ouais. Vous connaissez tous la légende des sirènes ?
Oui.
Ouais. Voilà, oh. qui veulent attirer Ulysse hors de son bateau pour Torture le séduire et le dévorer.
Ouais.
Et
bah, oui.
le perdant devra imiter le chant des sirènes.
Oui.
Voilà.
Non.
Pour séduire nos auditeurs et en attirer plein.
Voilà. Voilà.
Vous savez ce qui vous attend.
Je préfère être séduire par une sirène.
Et non, là, si tu perds, ça sera toi la sirène.
Sniff.
Voilà.
Ah,
okay. Donc, ne perds pas.
D'accord.
Alors, ce petit quiz, j'ai été piocher un petit peu dans toutes les mythologies, en tout cas au moins européennes, que ça soit égyptienne, grecque, celtique, nordique, mésopotamienne, etc. Mais en allant chercher ce qu'il y avait de plus gore ou de plus chaud, pour montrer que la mythologie n'avait rien à envier aux pires scènes de Game of Thrones. Allez, on commence. La première question, qui se porte volontaire ?
L'essence des aiguilles d'une montre.
Allez, Vincent. Alors, une déesse de la mythologie grecque a surpris un jeune chasseur qui l'observait pendant qu'elle se baignait toute nue dans un lac en pleine forêt. Pour se venger, elle n'a pas apprécié d'être vue toute nue, elle l'a changé en cerf afin qu'il soit dévoré par ses propres chiens. Quel est le nom de cette déesse ? S'agit-il d'Artémis, d'Aphrodite ou d'Athéna ?
Ouh, c'est gentil, il y a un choix de réponse.
Ouais,
quand même,
c'est bien,
quand
ça.
Même.
Non, non, ça aurait été plus rigolo sans... D'instinct. Artémis, Aphrodite, Athéna. D'instinct, moi je dirais Artémis.
Et c'est une bonne réponse,
ah,
parce
ouais,
que Artémis est la déesse de la chasse,
chasse ouais.
et donc il y avait un petit rapport avec le chasseur.
J'ai failli voilà. hésiter avec Athéna sur le coup, parce que Aphrodite, ça paraissait gros, mais.
Non. Aphrodite,
Artémis.
Elle apprécie plutôt qu'on la voit toute nue.
Ouais, voilà.
D'accord.
Voilà. Quoi qu'on sait jamais, hein. Coup de pudeur. Oups.
Allez, bon point pour Vince.
Bon point.
Allez,
bonjour.
À toi. Allez, écoute bien, un dieu de la mythologie égyptienne a été tué par son frère, qu'il a ensuite coupé en morceaux, puis jeté dans le Nil. Sa femme a récupéré tous les morceaux, les a rassemblés, a ramené son époux à la vie. Quel est le nom de ce dieu ? S'agit-il d'Osiris, d'Horus ou de Seth ?
Alors, j'en connais qu'un, c'est Osiris, parce que c'est une attraction dans le parc Astérix. Voilà, sinon, je ne le saurais pas. Est-ce que je pourrais avoir les propositions
ouais. Donc, soit Osiris, soit Horus, soit Seth.
Alors, c'est une bonne question, bien évidemment.
T'as une chance sur toi.
Ouais.
Je crois que c'est pas mal.
Allez, je suis trop un rebelle, Seth, voilà.
Et non.
C'était Osiris.
C'était Osiris,
ouais,
effectivement.
Voilà, j'ai gagné
voilà.
Un mauvais point pour Sacha.
Oui.
Ah, là. Oui.
On continue ?
Salut.
Allez.
Chant des sirènes.
Un dieu de la mythologie nordique s'est transpercé mortellement avec sa propre lance, sur laquelle il est resté accroché 9 jours et 9 nuits à un arbre, avant de revenir à la vie grâce aux runes qui lui avaient été dévoilées pendant ce temps. Quel est le nom de ce dieu ? Thor, Odin ou Mimir ?
Alors, je vais pas dire Thor parce que se faire transpercer la Thor, je dirais pas Thor. Odin, non. Et l'autre, c'est qui ?
Mimir.
Mimir. Est-ce que c'est le descendant de Mimimati ?
Oh, j'entends le chant de Sion.
Allez, je vais dire Mimir.
Et non, c'était Odin.
Bon.
Je précise que Mimir existe quand même.
Ah, d'accord. Ouais.
C'est
ah,
aussi
bah,
un...
c'est le mauvais point.
Mauvaise réponse. Allez, une déesse sumérienne de l'amour physique et de la guerre, curieuse alliance, à l'aspect hermaphrodite, exigeait le rituel du mariage sacré dans lequel le roi et la prêtresse devaient avoir une relation sexuelle au sein du temple, devant tout le peuple. Quel est le nom de cette déesse ? Nana, Inanna ou Zababa ?
Voilà.
Alors, je ne suis pas... professionnel de la mythologie sumérienne.
Zola qui a écrit ça.
Alors, Nana, Zubaba ou
Nana, Inanna ou Zababa.
Ah, Anna, Inanna.
Je précise
ou
que
Zababa.
Toutes les trois sont des vraies déesses sumériennes.
C'est bon à savoir. Inanna.
Eh oui, c'est une bonne réponse.
Je le savais.
Ouais.
Est-ce que tu veux que je t'en pose une pour que tout le monde soit à égalité?
Non.
Allez, vas-y.
Alors, dans le folklore japonais, comment appelle-t-on un esprit vengeur? Un yorei, un yokai ou un kaiju?
Alors, complètement au hasard, parce que je n'y connais absolument rien, je dirais la troisième réponse.
Eh non. Non, c'est pas un kaiju, c'est un yorei. Voilà.
C'est, ça veut dire les géants, non de...
Bah, c'est possible.
Ouais, monstres géants.
Ils ont pris d'un passé.
Et les yokai, c'est les démons, les créatures démoniaques, tout dans le genre. Et yorei, ben voilà, The Grudge.
Pour le moment, donc, c'est Sacha et moi qui nous racontent.
Allez, voilà. On va tous crever ensemble. Sacha, je
on peut faire le chant des sirènes à plusieurs. Pas un souci.
La chorale des sirènes.
Voilà. On refait un petit tour ?
Allez.
Allez. Sorcière de la mythologie grecque, elle a aidé Jason à voler la toison d'or et s'est enfuie en bateau avec lui. Comme son père l'est pourchassé pour récupérer sa toison d'or, elle a tué son petit frère qu'elle avait enlevé, elle l'a coupé en morceaux, elle a jeté les morceaux à la mer afin de forcer son père à s'arrêter pour récupérer chaque petit bout de son fils et ainsi pouvoir lui échapper. Après quelques années de mariage, Jason décide de la quitter pour épouser la fille d'un roi.
Je demande pourquoi.
Elle était tellement sympathique, ouais. Cette jeune fille. Pour se venger, elle tua ses propres enfants qu'elle avait eus avec Jason et que ce c'est dernier chérissait. Et envoya en présent de mariage à la princesse une robe ensorcelée qui la fit mourir brûlée vive. Quel est le nom de ce charmant personnage? S'agit-il de Circé, de Didon ou de Médée?
C'est au programme de troisième.
Ouais.
Eh bien, je suis un quatrième.
Voilà. Les réponses, c'est...
Circé, Didon ou Médée.
Médée.
Oui, bonne réponse.
Oh. Et c'est le dernier tour, là.
Oui.
Ah oh. Ben, Vince ne peut pas faire la sirène.
Oh. Ah, quel dommage.
C'est pas possible.
Oh.
Allez.
Et compte sur vous pour me charmer. Est-ce qu'il y a une réponse mystère?
Ah, on fera peut-être une dernière question. Ah, pour...
La chorale des sirènes, c'est pas
alors, oui, Sacha, chorale moi, j'aime de bien sirènes. Cette idée. Si Sacha a une mauvaise réponse, là, il est pratiquement sûr de faire la sirène et Nathan ne le pourra pas
décisif.
Faire.
Vas-y.
Allez, un héros de la mythologie celtique, blessé au pied par une lance empoisonnée, demande à ses compagnons de lui couper la tête et de l'enterrer à Londres, sur une colline faisant face à la France. Durant tout le voyage, la légende veut que la tête du guerrier ait continué de bavarder avec ses amis. Quel est le nom de ce héros? S'agit-il de Puil, de Bronn le Maudit ou de Bran le Béni?
Les propositions. Alors, donc, j'ai entendu Bran le Maudit et Bran le Béni.
Donc, Puil, Bronn le Maudit ou Bran le Béni. Attention.
Alors, on va dire Bronn le... Voilà. le béni.
Bran le béni, c'est ton dernier mot?
Oui.
C'était une bonne réponse.
Oh papa.
Je crois qu'il y a une BD sur Bronn le Maudit qui s'appelle Northlanders. Je vous conseille, elle est bien. Voilà.
Oh, mais Sacha, donc voilà. Alors là.
On continue.
Je quitte ce studio, moi, si je perds là.
Alors.
Oui.
Un dieu grec prit le pouvoir en émasculant son père, Ouranos, à l'aide d'une fossile confiée par sa mère. Devenu roi des dieux, il épouse sa sœur, Rhea. Quand je vous avais dit que ça n'avait rien envie à Game of Thrones, pour l'instant on est bien parti. Ayant été averti par son père mourant qu'il serait lui-même un jour tué et détrôné par son propre fils, il dévore chacun de ses enfants. Mais Rhea cache le sixième bébé. Celui-ci va grandir, empoisonnera son père qui vomira tous les enfants qu'il avait mangés.
Oh. Eh bien, il vécure heureux jusqu'à la fin.
Quel est le nom de ce dieu? Zeus, Cronos ou Arès?
Je crois
Zeus qui?
Cronos ou Arès?
Ah, mais je l'ai vu d'un Percy Jackson, justement.
C'est possible.
Je croyais qu'il était nul.
Mais...
Le 1 ou le 2?
Le 2.
Cronos, c'est pas le dieu du temps, non?
Si.
Alors pourquoi il aurait fait ça lui?
Attends, je suis la question, c'est celui qui
oui.
a...
C'est celui qui a émasculé hein.
Voilà. Non, c'est celui d'après.
C'est celui qui a émasculé vomir. Son père et qui lui-même a été tué par son fils.
Donc
et
c'est lui
qui a bouffé tout le monde.
L'intérêt de la question. D'accord.
Voilà.
Bon, Arès, c'est le dieu des enfers, je crois pas qu'il est mort lui.
Non, comment Arès, pas Hadès. Arès, attention.
Ah oui. Hadès, on paraît.
Dieu de la guerre.
Arès, c'est le dieu de la guerre. Bon. Zeus, non, il est trop gentil pour faire ça quand même. Je sais pas. Petit piège.
Quoique Zeus, gentil.
Je sais pas. Ah non, je confonds avec Odin.
C'est tous des connards, les dieux.
Alors
bah, je veux dire, allez, Zeus.
Et non, c'est Cronos. Oui, je sais, et voilà, c'est bon. Fils de Cronos voilà. Qui a fait vomir son père pour faire revenir.
C'est bien ce que j'ai vu d'un Percy Jackson.
Comment je peux faire une sirène?
La sirène se rapproche.
C'est vrai, c'est pas vrai.
Allez,
toujours pas mal.
On continue.
De toute façon, c'est sûr que c'est toi qui le fais.
Ouais, mais il y a peut-être des autres questions. Hein.
Le dieu nordique de la discorde a causé la mort du dieu Baldr. Furieux, les autres dieux décident de le punir. Il l'attache avec les entrailles d'un de ses fils sous un serpent dont le venin goutte sur son visage. Il en sera ainsi jusqu'à la fin prophétique du monde, le Ragnarok, où le prisonnier se libérera et mènera les géants à l'assaut contre les dieux et les hommes. Quel est le nom de ce dieu? Loki, Thor ou Eldir?
Loki, Thor ou Eldir?
Tu en as parlé tout à l'heure.
Oui, j'en ai parlé tout à l'heure.
Regarde pas dans tes notes.
Et j'hésite. Loki. De toute façon, je m'en fous, je suis sûr que c'est pas moi qui fais la sirène.
Et oui, c'était Loki.
Ouais. Il a trop de la chance, quoi.
Non, c'est pas la chance, c'est le talent cristal.
Et bien voilà. Il ne reste plus qu'à entendre une
dernière
pour
question
moi.
Pour Lucille. Allez. Sauf que moi, c'est pas aussi trash que Lucille. Elle est simple. Quel est le nom de la compagne femme de Hadès? Besoin d'indication.
Perséphone.
Ouais, voilà.
Voilà. Alors,
mais je ne sais pas à quoi ressemble une. Enfin, quel est le son d'une sirène?
C'est censé être séducteur.
Ouais, ouais. Ça, il a essayé de faire le piège, tu vois, pourquoi tout le monde l'imite.
Séducteur, mais un petit peu, on va te manger derrière quand même.
Sois séducteur, ouais.
Ah, il faut que ça dure 20 secondes minimum. Oh non, vas-y. 3.
Faut pas que je joue à des jeux, moi.
Allez, allez. 3.
Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu peux reprendre une chanson de Rihanna.
Tu chantes du fou. 3, 2, 1. Allez, plus, j'adore.
Je vais te séduire. Mais je vais te bouffer après. Qui veut venir? Tu fais à volonté. Voilà.
Et ça fait...
Ah mais... Qu'est-ce que je dise?
Ça
fait mal. Ouais.
Sacha pleure de rire, oui, tu as précisé.
Ça arrive.
Ah.
C'était beau, Victor.
Ouais. Bah écoute, c'est une sirène un peu mal.
Sacha, on a les larmes aux yeux. Hein.
Ouais. Avec ce chant séducteur, on va au moins 5000 écoutes là, franchement.
Ouais. Ouais. Merci bien. Donc,
non, mais il fallait que tu fasses donnez-nous de l'argent. Donnez-nous. Beaucoup de vues.
Voilà, c'était le cross-set numéro 2. J'espère qu'il vous a plu. Le prochain, bah, peut-être qu'on en fera un prochain. D'ici là, on vous dit à la rentrée, peut-être vite, donc on sait pas.
Bonnes vacances.
On espère.
Lucille, on se retrouve à la rentrée donc, pour les prochaines émissions de l'heure fantastique.
Voilà, le 11 octobre précisément sur l'Heroic Fantasy.
D'accord, et nous, alors, l'unité spéciale, on reviendra peut-être, on sait pas.
Si on veut encore de nous.
Pour des nouvelles émissions, donc restez à la rentrée. On vous souhaite de bonnes vacances et salut tout le monde.
Au revoir.
Salut. Ouais, au revoir à tous et à toutes et aux monsieur et aux madame. Voilà.
Cette émission touche déjà à sa fin, mais vous pouvez retrouver l'heure fantastique, Showtime et l'unité spéciale sur radiosaintafrique.com et sur Twitter. Restez connectés.